milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, survivre en pleine nature, c'est-à-dire apprendre à faire du feu, à se nourrir dans la forêt ou sur une île déserte, se mettre à l'abri des animaux, voilà tout ce que l'on peut apprendre dans les camps de survie par des experts du survivalisme. Même si les mots changent selon les tendances, c'est une mode qui se répand avec Internet où des démonstrations d'Indiens d'Amazonie peuvent avoir plusieurs millions de vues. Alors pourquoi un tel engouement pour la vie sauvage, notamment chez les jeunes qui n'ont connu que la vie urbaine et ultra connectée? Simple défi physique, retour à la simplicité, intérêt pour la nature ou encore parfois angoisse de la fin du monde et d'une catastrophe écologique. Nous allons en parler avec un homme qui peut vous apprendre à survivre. Bonjour Albin Cambe.
Bonjour.
Si déjà j'apprenais votre nom, ça serait bien. Vous êtes journaliste pour Survival Mag. C'est un magazine qui a été créé il y a 2 ans.
C'est ça.
Et qui diffuse à combien de milliers d'exemplaires?
Environ 55 000 exemplaires.
Voilà, ça dit déjà beaucoup de choses de l'intérêt pour ces sujets. Vous avez publié aussi des livres, Nature, Aventure, Survie, et également, Albin Cambe, L'art ancestral de la navigation naturelle, s'orienter sans boussole, ni GPS, ça peut faire rêver aujourd'hui en 2018, aux éditions Memorabilia. Et vous avez aussi un blog et une association, et vous survivez par exemple aux grèves de la SNCF.
Alors déjà, j'aime pas parler de survie, je parle toujours de bushcraft, parce que j'ai aucune légitimité en tant que instructeur de survie, j'ai survécu à rien. Je n'ai pas survécu à un crash aérien, je n'ai pas été paumé sur une île déserte. Donc ce que j'aime communiquer, moi, c'est plutôt la passion d'être dans la nature et le plaisir. Je pense que c'est une qualité importante aujourd'hui.
Mais vous communiquez des techniques, on est bien d'accord.
C'est ça.
Des connaissances extrêmement précises. Donc sur la SNCF, vous n'avez pas répondu.
Bah, a priori, vous voyez, je suis arrivé à l'heure, donc il n'y a pas de problème.
Et quant à vous, les voisins, quelles sont vos capacités à vous débrouiller en milieu hostile? On attend vos témoignages, vos savoir-faire, peut-être un peu scout, un peu homme des forêts, ou plus dramatiquement aussi pour certains d'entre vous, victimes de la guerre. Mais avec le téléphone, c'est encore mieux quand même. Vous nous appelez surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp. À condition bien sûr d'avoir une bonne connexion internet. Si ce n'est pas le cas, vous nous sonnez sur le standard habituel. En fin d'émission, retour à la vie normale avec Khaled Higué, ambassadeur du Forum des diasporas africaines qui se déroulera à Paris le 22 juin. On aura aussi un reportage en Guadeloupe d'Alice Milo sur les combats de coqs. Mais tout de suite, allez, on éteint la lumière et on joue à se faire peur, survivre avec pas grand-chose.
8 juin 2024. C'est à cette date que le premier boom a retenti. Puis un deuxième. Puis un troisième. Et ainsi de suite. Une guerre mondiale. Des bombes nucléaires. Des radiations. Des morts. La Terre est devenue un énorme cimetière où la nature a repris ses droits. Cela va faire 6 ans maintenant que je tente de survivre, livré à moi-même. J'ai peur de devenir fou, mais je dois me faire une raison. Je suis le dernier être humain vivant sur cette terre.
Un sac de couchage, un matelas, une bouteille d'eau, une corde. Et ça, c'est un sac avec un masque à gaz et un filtre dessus.
Le but, c'est de montrer qu'on peut vivre autrement.
Allez, mais ça fait 6 ans que je vis seul dans la forêt, là, à manger de l'écorce, vaincre le froid, chasser des bêtes.
Ça, c'est con.
Ah bah ouais, c'est con, ouais. Un soir de grande famine. Je me suis bouffé 2 doigts. Food,
water, pour survivre, il faut de la nourriture, de l'eau, un abri et du feu. Il y en a qui préfèrent construire un bunker ou encore se réfugier sur une île.
Nous sommes dans ce qui sera la salle à manger. Au fond, il y aura les chambres, la salle de bain, la salle des machines, tout ce qui permettra à cet équipement d'être fonctionnel et confortable. On peut stocker assez de nourriture pour 24 personnes pendant 1 an. Ici, on pourra cultiver tous les jours des légumes, des citrons, des tomates, des courgettes, toutes sortes de légumes frais, ainsi que la salade. Il y aura des agents de sécurité en haut des collines, tout autour. On pourra voir de 40 à 80 km à la ronde, dans toutes les directions. Donc je ne vois pas comment on pourrait être envahi, à moins que ce soit par une armée.
Les copains, il y a un truc bizarre à la barricade. Venez voir, venez.
monde de gens meurs.
Quoi?
Tout un tas de gens meurs. Que sur la route.
Il n'y a plus personne sur Twitter.
Pandémie.
Quoi?
C'est pandémie. Il y a une putain de pandémie.
On reste calme. On garde son sang-froid.
Du monde, on se reverra dans l'au-delà. L'amour et l'amitié plus fortes que l'épidémie.
Voilà, ça part dans de doux délires. Alban Camp, il y a beaucoup de dingues, beaucoup de moqueries aussi sur le survivalisme. Vous avez l'habitude ?
Oui, tout à fait, parce que je pense que ça vient d'une incompréhension en fait. C'est-à-dire que le mouvement survivaliste tel qu'on peut l'identifier aujourd'hui et tel que les gens s'en font l'image, ça dérive de ce qui s'est passé durant la guerre froide aux États-Unis. Donc des gens qui construisaient des bunkers, qui se préparaient une guerre atomique.
Dans les années 60.
Voilà, dans les années 60. Donc qui vraiment s'attendaient à une catastrophe.
Donc Kurt Saxon, américain d'extrême droite, qui était un personnage assez controversé et qui distribuait des livrets de survie à des gens et manuels d'autodéfense.
On peut pas tout rattacher à lui. Et je sais très bien qu'il y a des personnes qui se rattachent uniquement à cette personne-là, mais ce serait un syllogisme de dire que tous les survivalistes sont d'extrême droite. Ça, c'est totalement faux. Déjà. Par contre, en fait, l'image qu'on a du survivalisme à l'heure actuelle, elle est dérivée effectivement de cette tendance durant la guerre froide. Mais ce qu'on a oublié, c'est que du coup, suite à la guerre froide, lorsque finalement il n'y a pas eu de guerre atomique, les survivalistes et l'Amérique finalement a fait son autocritique. Et on s'est retrouvé avec des personnages de survivalistes dans les films hollywoodiens, dans les romans, dans les comics, qui sont tous présentés comme des uluberlus, avec des armes à feu, des bunkers, des tas de boîtes de conserve. Et en fait, c'est cette image-là qu'on a aujourd'hui. C'est une image totalement biaisée. Et puis, vous l'avez entendu dans le montage juste avant, on a quand même ce côté un peu second degré quand on parle du survivalisme.
Aujourd'hui, le néo-survivalisme, c'est un mélange d'écologie, mais aussi, tout de même, parfois un peu de pessimisme.
Oui et non, parce que en fait tout dépend de l'optique dans laquelle sont les pratiquants, et j'ai envie de dire que de toute façon c'est aussi large que la population française. La population française, elle est mixte, elle est diverse, il y a différentes opinions politiques, etc. Les survivalistes, c'est pareil, on peut pas les enfermer dans une case, contrairement à ce que certaines études veulent nous faire croire.
Mais alors vous, effectivement, vous avez pas l'air spécialement pessimiste sur le monde, vous êtes avant tout là quand vous organisez des stages de survie, même si vous n'aimez pas ce mot-là. Parce que quel type de survie dans un monde occidental, on peut se poser la question. Mais néanmoins, est-ce que les survivalistes aiment avant tout de même qu'il y ait une notion de danger pour être dans le désir d'apprendre et de se débrouiller?
Ce qui est énormément relayé ces temps-ci sont les travaux d'un certain Bertrand Vidal, qui est
sociologue.
Sociologue, qui est vraiment dans le fantasme de ce qu'il appelle l'effondrement ou la collapsologie, si je ne m'abuse. Mais en réalité,
la
fin du monde,
pour des raisons environnementales.
Excusez-moi, mais la fin du monde, nous, dans nos sociétés occidentales, on n'est pas près de l'avoir, contrairement à d'autres personnes au monde qui luttent pour leur survie chaque jour. Donc je trouve que déjà que c'est totalement déplacé de parler de ça. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un côté qui est très important, mais c'est le plaisir. Le plaisir de vouloir apprendre de nouvelles choses, de vouloir cultiver sa terre, de vouloir voir son potager grandir. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever quand même.
Oui, alors c'est un peu plus poussé que cela, hein, que de cultiver son potager, les stages qui sont organisés.
C'est encore autre chose.
Voilà, ce qui est sûr aujourd'hui, alors ça plaît beaucoup aux jeunes, la survie est avant tout quand même une forme de défi physique. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'Alban, 31 ans, il travaille dans l'immobilier en région parisienne. C'est un ancien candidat du jeu télévisé Koh-Lanta, dans lequel 20 candidats sont lâchés sur une île déserte pendant 40 jours. Alban a participé à deux éditions, une première en Malaisie en 2015, une seconde aux îles Fidji en 2018. Récit d'un survivant avec beaucoup de guillemets, bien sûr, au micro d'Alice Milo.
Tant qu'on n'a pas vécu Koh-Lanta, on le sous-estime tous, et c'est vrai. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi compliqué, aussi dur. Alors, on a l'avantage d'avoir un point d'eau. Hein, c'est la seule chose que la production nous met à disposition, un point d'eau qu'on doit trouver. Mais excepté ce point d'eau, tout le reste, tel Robinson, nous devons vivre et survivre dans cette île déserte. Vous dormez sur le sable ou dans la forêt. Vous devez construire votre cabane. Il y a une chose essentielle à Koh-Lanta, c'est l'étanchéité du toit de notre cabane. Parce que malheureusement, on est souvent dans des endroits où la mousson aime bien nous titiller. Donc c'est vrai que l'étanchéité n'est jamais là à 100%, mais elle est importante pour deux choses. La première, c'est pour qu'on puisse dormir correctement, chose qui est assez difficile quand même à Koh-Lanta. Et la deuxième, c'est que quand on fait le feu, si on a réussi à le faire, il faut aussi le conserver. Parce que faire le feu, c'est compliqué, mais c'est tout aussi compliqué de le conserver.
Et le feu, c'est très important.
Le feu, c'est extrêmement important. Lors de ma deuxième aventure, on a mis 11 jours avant de faire le feu. On a beau avoir frotté les bambous, on a essayé toutes les techniques, la ficelle et autres, à chaque fois on a beaucoup de fumée, mais cette fois-ci on n'a pas réussi. Je mettrais en cause l'humidité, parce que c'est vrai qu'il faut être quand même dans des conditions où faut avoir le moins de vent possible. Et faire ça aussi avec du bois qui n'est pas humide. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de chance cette année. Et je n'avais pas connu ça lors de ma première aventure où on avait juste mis 3 jours. Le feu, c'est la vie. Sans feu, vous ne faites rien à Koh-Lanta. Le feu, ça vous éclaire la nuit, ça vous réchauffe, ça vous permet de cuire des aliments qui ne sont pas comestibles si vous n'avez pas de feu. Ça vous permet de vous protéger aussi indirectement, d'éloigner les bêtes, de brûler vos détritus. 11 jours sans feu, c'est 11 jours laborieux. Tout simplement, c'est 11 jours où c'est pas l'enfer, c'est les autres, c'est sans les autres vous n'êtes rien, parce que forcément vu que vous avez froid vous devez vous coller les uns aux autres
pour dormir,
vous devez dormir avec les autres, vous devez organiser une vie sans feu. Et une vie sans feu, ça n'a rien à voir. On a eu la chance de pêcher une raie, et aussi content qu'on a été un moment, la tension est vite redescendue quand on a dit mais qu'est-ce qu'on va faire de cette raie. Mais quand vous avez faim, vous la mangez crue, on s'est fait nos sushis à nous. On pose souvent la question, est-ce que vraiment la production ne vous donne pas des choses à manger à côté? Non, la seule chose que Dame Nature nous donne à manger déjà, c'est de la coco à volonté. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours à manger sur une île. C'est ça qui est formidable. Dans la survie, on n'a pas besoin d'être un expert en plantes ou quoi que ce soit, il y a toujours à manger, notamment de la coco. Voilà, la coco, c'est vraiment l'aliment phare de notre survie. Ça vous permet de mastiquer quelque chose, ça vous permet d'avoir quelque chose dans le ventre. Mais je vous garantis que même aujourd'hui, les shampoings à la noix de coco, je ne peux vraiment pas. C'est-à-dire qu'à la fin, on n'en pouvait tellement plus de la coco qu'on la brûlait dans de la casserole, mais brûlée comme une merguez qu'on a oubliée sur un barbecue. Et on la mangeait comme ça juste pour qu'elle ait un goût différent. Tellement la coco et nous, c'était compliqué. Une fois qu'on a fait le feu, on avait la chance, on a trouvé du manioc, la pomme de terre régionale, tout simplement.
Donc il a fallu creuser, chercher des tubercules.
Exactement. Il a fallu creuser.
Du manioc sauvage.
C'était du manioc sauvage, oui. Rien n'est planté là-bas. Et j'ai oublié, notamment au Fidji, il y avait beaucoup de crabes de terre. Et ça, c'était un délice. Crabe de terre le matin ou le soir, parce que sinon la journée ils dorment, mais matin ou le soir ça grouille de crabe de terre, et donc faut les faire cramer dans le feu. C'est pour ça que le feu est essentiel. Mais c'est vrai que sinon on avait des kits de pêche, mais les kits de pêche, c'est partir au large, c'est forcément être à deux en termes de sécurité, c'est descendre à 5, 6, 7 mètres de profondeur, et c'est, là je vais être un petit peu égoïste quand je vais dire cette phrase comme ça, mais c'est se fatiguer aussi pour les autres. Ce qui m'a le plus surpris dans ma confrontation avec la survie, c'est mon corps. Tout simplement. C'est extraordinaire à quel point notre corps s'adapte. Sur mes deux aventures, j'ai perdu à chaque fois 10 kilos. Au final, dès l'instant que vous avez de l'eau et un petit peu à manger, on peut survivre des années. Spontanément, ne pas se laver les dents, pas de shampoing, pas de savon. On se dit que ça va être terrible, mais au final, ce qu'on oublie, c'est que tous les autres sont dans les mêmes conditions que les nôtres. Donc c'est vrai que quand vous êtes dans une porcherie, vous sentez plus que ça sent mauvais, tout simplement. Là, voilà. Et puis on a des petites techniques pour essayer de ne pas trop sentir mauvais, notamment être le plus près du feu. Mieux vaut sentir le feu de bois plutôt que la transpiration. Il y a aussi une technique de prendre de la cendre mouillée et se la frotter contre les dents, parce qu'apparemment la cendre est bénéfique pour les dents, c'est ce qui crée un petit peu l'émail. Alors, c'est pas non plus excellentissime, mais c'est apparemment le meilleur des dentifrices sur une île quand vous n'avez rien. Donc voilà, vous avez des petites techniques. On se rend pas compte ce que c'est de l'eau qui coule. On se rend pas compte ce que c'est une douche. Et c'est vrai que c'est un peu comme un rhume. Je pense qu'on jamais le matin on se réveille en disant ah quel plaisir de respirer avec mon nez tant qu'on n'a pas un rhume. Donc c'est le propre de l'homme de se remettre en question uniquement quand il est face au précipice. L'homme avec un grand H, il ne baisse jamais les bras et il va se relever. Alors attention, il se relève en pleurant, en grimaçant, en se plaignant, mais il se relève toujours et c'est ça qui est formidable.
Alban Camb, quel est votre point de vue sur ce genre d'expérience en partie de survie, il faut bien le dire tout de même, c'est quand même pas simple.
Ouais, alors c'est sûr qu'on est dans le défi physique là, mais après, pour moi Koh-Lanta, je regarde pas trop la télé, pour moi ça reste une émission de régime, pour tout vous dire, là, la personne a dit qu'elle avait perdu 10 kilos, il y en a qui peuvent s'inscrire s'ils veulent avoir le bikini pour l'été, hein. Mais non, bien sûr, on est face à un défi physique, en fait, là, essentiellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas en situation de survie au sens propre, dans le sens où y a l'équipe de production tout autour, il y a un médecin, il y a les secours qui sont prêts à arriver.
Bien évidemment. Oui. Néanmoins, quelle est finalement la diversité des expériences et des motivations et des profils des participants dans ce type de stage? Il y a énormément de stages très différents, des stages commando très militarisés, d'autres beaucoup plus dans le plaisir tel que vous les organisez, dans la connaissance aussi des produits naturels. Mais quelles sont les motivations des participants toujours?
Écoutez, c'est aussi varié qu'il y a d'écoles de survie différentes, j'ai envie de dire. Il y en a qui seront beaucoup plus axés commando. Donc là, on va chercher le défi physique, on va chercher peut-être un peu de tactique, on va chercher aussi peut-être une forme de jeu, quelque part, en devant rester discret la nuit. Il y a même des scénarios en fait, qui sont organisés avec des survivants, entre guillemets, qui doivent rallier le point A au point B et sans être repérés par des chasseurs, entre guillemets, qui sont là pour essayer de les retrouver en permanence.
Ça fait d'ailleurs l'objet de jeux télévisés également, très souvent anglo-saxons à l'origine.
Oui, voilà, dans ce genre-là. Ouais. Après, il y a des écoles qui sont plus dans, en mode vraiment survie, rien dans les poches. Qu'est-ce qu'on fait si on s'écrase sur une île déserte? Et là, on va plus se confronter à l'hypothermie, à la faim, à la soif. Donc, en général, là, les participants ne vont pas manger, ne vont pas dormir. On va les mettre peut-être en sous-vêtements dans une rivière glacée, juste pour leur montrer ce que c'est. Donc, il y a, pareil, c'est le défi physique, c'est l'envie de se dépasser. Mais c'est aussi l'envie d'apprendre. Et dans beaucoup de stages, finalement, qui sont labellisés survie en France, en réalité, on ne se met pas en difficulté. En réalité, on est là pour apprendre des choses, pour apprendre des savoir-faire ancestraux, des choses que nos grands-parents savaient faire. Mais on est aussi là par curiosité intellectuelle, par envie de découvrir la nature.
Donc avantage apprentissage de technique, ouais, que résistance physique.
Voilà, par exemple dans les stages que moi j'organise, j'axe ça sur le bushcraft parce que pour moi c'est important qu'on prenne du plaisir.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement le bushcraft?
Alors bushcraft, littéralement on pourrait traduire ça par l'artisanat de la brousse. Donc c'est simplement des petits savoir-faire. C'est savoir allumer un feu, savoir reconnaître quelques plantes comestibles, savoir s'orienter sans boussole, sans GPS. Juste des petits trucs et astuces qu'avaient nos ancêtres quand ils devaient se débrouiller dans la nature. Quoi.
Allumer un feu dans une forêt française, comment on s'y prend?
Alors déjà, on n'a pas le droit.
C'est toujours très humide en plus.
Pas forcément, mais en tout cas, bon, y a tout un côté législatif qui est assez compliqué. Donc il faut trouver le propriétaire du terrain, etc., avoir une autorisation. Mais ensuite, il y a plein de méthodes. Et justement, c'est la découverte de ces méthodes-là qui peut être super intéressante. On peut toujours commencer avec des allumettes, ça paraît très simple, mais pour ceux qui font l'expérience, en général, ils s'y cassent les dents, parce que ça nécessite une excellente sélection des allumes-feux. Ensuite, on a plein de petits outils en bushcraft, comme le fire steel, c'est une sorte de tige de métal qui déclenche des étincelles quand on la gratte. Donc là, il faut trouver également le bon allume-feu. Et après, on peut se confronter à des choses comme le feu par friction, donc frotter des bouts de bois, ou utiliser un silex et un matériau ferreux. Donc en fait, rien que ce côté-là, allumer un feu, c'est une discipline à part entière, et ça devient un art. Quand on a enfin réussi à maîtriser un petit peu tous les paramètres, que ce soit l'humidité, l'allume-feu que je sélectionne, le combustible, le vent, etc.
Pour les jeux télévisés, on le voit bien, il y a une sélection sur des critères physiques. Est-ce que sinon le bushcraft, à votre sens, est à la portée de tout le monde?
Oui, et je le revendique. C'est-à-dire que j'ai envie de dire à tous les pères et mères de famille, en gros, que s'ils ont des enfants, ils sont obligés d'aller dans la forêt pour essayer de leur apprendre des petits trucs, juste pour le plaisir. Parce que quand ils découvriront la petite lueur de joie dans les yeux de leurs enfants lorsqu'ils auront allumé leur premier feu, là, ils seront prêts à y retourner. Et d'ailleurs, la plus grosse clientèle, entre guillemets, de mes stages, pour mon association, ce sont des mères de famille qui viennent avec leurs enfants.
Et pas des pères? Parce que
des
c'est quand
pères
même
aussi.
Un monde assez masculin.
Ouais, des pères de famille aussi, mais là je vous parle du stage que j'ai animé il y a 3 semaines. J'avais deux mamans qui étaient venues juste avec leurs enfants. J'avais un couple de randonneurs, j'avais un bivouaqueur pour qui c'était un cadeau de sa femme. Mais en tout cas, tout le monde est là juste pour le plaisir, pour essayer de retrouver ce sentiment de transmission finalement.
Donc vous partez avec de l'eau potable, évidemment.
Alors on part avec
du
de
matériel.
L'eau, on part avec du matériel, on part avec de la nourriture et on se fait un bon gueuleton parce que je trouve que c'est super important de prendre du plaisir aussi.
Mais
de ce côté-là.
Vous trouvez des aliments sur place dans la nature,
ouais,
également.
On agrémente en fait ce qu'on amène.
C'est-à-dire
on agrémente avec des plantes sauvages. Par exemple, je leur ai présenté le conopode, qui est une petite plante dont on peut manger le tubercule qui pousse sous terre. Et là, je peux vous dire qu'il a fallu les arrêter, sinon ils auraient dévalisé tout le terrain. Ouais.
On va reparler de gastronomie dans ces techniques de survie. Je vous lis le message de Kevin qui est à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Il nous dit « Moi, j'aimerais vivre cette vie sauvage, mais j'ai bien trop peur dans la forêt, des fourmis, des animaux qui peuvent m'attaquer. » Eh bien, pas de problème. Il y a beaucoup de vidéos, hein, Kevin, sachez, sur Internet, pour suivre les autres à distance sans prendre de risques. Il faut le dire, hein, ceci dit, passer la nuit dans la forêt, même en Europe, quand il y a des sangliers, c'est
oui,
pas
oui.
forcément...
J'en ai fait l'expérience, c'est pas forcément agréable, mais bon, c'est toujours le risque et le bénéfice, en fait.
Vous nous appelez, en tout cas, les voisins et les voisines. On vous donne la parole et vous pouvez poser des questions hyper techniques, d'ailleurs, à Alban Camb. 33 1 84 22 71 71.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète se part.
Alors, quels sont vos savoir-faire pour vous débrouiller dans la nature? On a posé la question à nos auditeurs. Marvel nous a contactés. Bonjour Marvel.
Bonjour la voisine internationale.
Merci Marvel, vous êtes le bienvenu chez 7 milliards de voisins. Vous êtes à Pointe-Noire en République du Congo, vous avez 29 ans. Et évidemment, le sujet survivre en pleine nature évoque vos expériences de jeune scout.
Oui, exactement. J'ai eu la chance en 2004. Bon, grâce au scoutisme, on a fait ça le campement de 2 semaines dans la nature. Nous avons érigé des camps dans la nature. Et la particularité, c'est que cette vie en plein milieu naturel a été faite parce qu'en faisant le camp, on n'est pas parti avec des vivres. Sur place, il fallait qu'on se nourrisse et ce qu'on devait trouver sur place. Donc on a fait affaire à la pêche, la cueillette. Et cette expérience a vraiment développé un intérêt pour moi, pour la nature. Et depuis lors, je n'hésite pas à saisir cette occasion de visiter la nature.
Et alors, cueillette, c'est suffisant ou vous avez appris aussi à chasser avec les scouts à Pointe-Noire dans la forêt?
Oui, exactement, à chasser, je vais vous raconter une anecdote. Dans la vie de la nature, on a appris à comment à attraper le porc-épic. Du coup, quand le porc-épic creuse son trou, il y a 2 trous. Vous allez le second trou, vous mettez un feu, un peu de piment. Du coup, il va savoir vous pousser à sortir au premier trou.
Oui.
Quand vous l'attrapez, puis vous l'égorgez, vous l'apprenez à... Avant de manger, vous devrez le fumer d'abord.
Oui.
Voilà.
Donc, du piment, 2 trous, je ne suis pas sûre d'avoir complètement bien compris la technique.
Il faut l'enfumer, pour
c'est
le faire
ça,
sortir
enfumer
terriers,
le oui. porc épic. Merci beaucoup, Marvel, pour ces souvenirs de scout. C'était où exactement, par rapport à Pointe-Noire, vous avez grandi?
C'était à Pointe-Noire, c'était à l'Essara, à près de 50 km de Pointe-Noire.
Oui, d'accord. Et effectivement, hein, on est vite tout de même au milieu de pas grand-chose, surtout quand on n'emporte pas de vivres, et puis les dangers aussi de la forêt, avec des dangers d'insectes notamment. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Vous, Alban Camp, comment vous avez appris toutes ces techniques, puisque vous êtes maintenant journaliste dans des magazines très spécialisés, Survival Magazine. Vous publiez des livres sur le nature, aventure, survie, sur les techniques aussi d'orientation. Comment vous avez appris ça? Vous avez été au scout au tout début ou pas?
Alors, je dis toujours que je suis un boy scout refoulé parce que j'ai jamais été au scout. Mais en tout cas, en fait, j'ai eu la chance de bien connaître ma grand-mère maternelle, qui, elle, a connu les privations de la guerre. Et même si elle ne parlait pas très bien français, parce qu'elle était bretonne, elle m'emmenait quand j'étais petit en balade, et je la voyais se baisser et ramasser des trucs dans la forêt. Alors pour moi, des trucs qui ne sortent pas du supermarché et qu'on peut mettre dans sa bouche après, ça me paraissait un petit peu incongru. Et cette image-là m'est toujours restée. En fait, elle me faisait manger des petites plantes à la saveur acidulée, etc. Donc en fait, en grandissant, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu ce goût de la nature, j'ai toujours eu ce goût de la biologie. Donc quand je suis devenu enseignant, finalement, lors de mes études, je me suis penché sur la question. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, la nature regorgeait de ressources et que c'était super intéressant de se pencher là-dessus et d'essayer de trouver justement des solutions à nos problèmes les plus communs. Comment est-ce que je me réchauffe? Comment est-ce que je fais un abri? Comment est-ce que je m'hydrate? Comment est-ce que je peux me nourrir? Donc rien qu'avec des choses qu'on peut trouver à l'extérieur.
Alors vous écrivez souvent dans vos ouvrages, il faut toujours avoir un plan, P-L-A-N, c'est ça? P comme protection.
L comme localisation, A comme acquisition et N comme navigation.
C'est-à-dire, donc alors on a parlé de la protection, c'est-à-dire faire du feu.
Oui, alors,
qui ne sert pas qu'à se nourrir d'ailleurs.
Non. Alors clairement, ça c'est une méthode qui n'est pas, que je ne m'attribue pas du tout. Hein. Ce sont les SAS, les forces spéciales anglo-saxonnes qui ont mis ça au point.
Oui, donc, vous voyez qu'on revient toujours aux militaires quand même.
Oui, parce que eux, justement, ils sont confrontés à différents biotopes dans lesquels il peut y avoir différentes menaces. Donc ils doivent être efficaces, que ce soit en Antarctique ou dans le Sahel. ou dans la jungle. Donc clairement, ils doivent avoir un acronyme qui fonctionne. Donc protection par ordre de priorité, en gros, c'est déjà la protection personnelle. C'est est-ce que je suis en sécurité là où je suis ? Est-ce que je ne suis pas en train de me vider de mon sang ? Donc protection médicale. Et ensuite, on peut aller vers la protection, l'abri, le feu, contre les intempéries. Localisation, c'est plus pour se faire repérer par les secours. Même si dans un contexte militaire, on peut parfois être amené au contraire à se cacher, à essayer de ne pas se faire localiser par l'ennemi. Et l'acquisition ensuite, bah, c'est trouver de l'eau, de la nourriture, des ressources qui me permettent d'entretenir mon camp, de me soigner éventuellement, si on connaît bien les plantes. Et la navigation, c'est s'orienter et pouvoir quitter les lieux si jamais les secours ne viennent pas.
Se construire un abri naturel en pleine forêt, quelle qu'elle soit, c'est pas simple du tout.
Ça demande beaucoup de temps, ça demande d'être méticuleux. Et ça demande de ne pas tomber non plus dans cette conception qui est un peu fausse de vouloir faire une cabane. En réalité, quand on est confronté au froid, le mieux c'est de faire un sac de couchage. C'est d'avoir vraiment de s'emmitoufler finalement dans les matériaux naturels.
Au plus près du corps ?
Ouais, c'est ça. C'est d'avoir une sorte de duvet, de feuilles mortes, d'aiguilles de pin, etc. pour essayer de passer une nuit au moins supportable. Je ne vais pas dire confortable, mais au moins supportable. Et bien sûr, quand on fait ça pour le plaisir ou pour la curiosité, je recommande toujours d'avoir une solution de repli, une tente ou du moins un petit abri érigé avec un tarp, un sac de couchage à proximité. Parce qu'on ne sait jamais, pour peu qu'il y ait quelques intempéries et que l'abri soit mal construit, on apprendra de nos erreurs.
Et s'orienter, sans boussole, sans GPS aujourd'hui ?
Ouais, alors ça c'est devenu ma passion et finalement je trouve que c'est le raffinement du bushcraft, parce que quand on parle de bushcraft, on parle de plaisir d'être dans la nature, et la navigation naturelle, c'est ni plus ni moins que de la contemplation. C'est-à-dire qu'on va observer les indices de la nature, donc la forme des arbres, le modelé des paysages, la couleur de l'eau.
Je pensais que vous alliez parler immédiatement de la position du soleil, mais non ?
Oui, le soleil également. Après, on procède...
La forme des arbres donne des indications pour s'orienter sur le nord, l'ouest, l'est ?
Un arbre, c'est ni plus ni moins qu'une centrale solaire. Et les panneaux solaires, ce sont les feuilles. Donc l'arbre va essayer d'exposer le plus de feuilles possible dans la direction d'où provient le plus de soleil. Donc dans l'hémisphère nord, c'est le sud. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Et l'arbre, il est également soumis au vent. Donc quand on connaît les vents dominants, finalement, la forme de l'arbre va être influencée par le vent et on va pouvoir retrouver les directions.
Est-ce que dans les stages que vous organisez ou dans ceux auxquels vous participez aussi pour apprendre des techniques, il y a parfois un décalage entre les techniques qui ont le plus de succès et puis celles que voudraient transmettre les puristes ?
Disons que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a beaucoup de mauvaises conceptions, il y a beaucoup de mythes. Donc pour la navigation naturelle, le mythe le plus connu, c'est la mousse. Je vous mets au défi de partir avec une boussole dans n'importe quelle forêt française, n'importe quel bois, et de me prouver que la mousse pousse réellement au nord. Ça, c'est quelque chose sur lequel on se casse les dents en général. Après, il y a beaucoup de mythes, par exemple, pour allumer un feu, le feu par friction. Il y a un fantasme
avec deux cailloux.
Non, avec deux bouts de bois.
Deux bouts de bois, mais aussi avec...
Mais avec les cailloux également aussi. C'est vraiment un fantasme.
Pourquoi c'est un fantasme ?
C'est une image un peu romantique de se dire qu'on va partir dans la brousse, trouver le caillou qu'il faut, donc par exemple un silex et un minerai de ferreux comme de la marcassite ou de la pyrite, et qu'on va pouvoir allumer un feu. En réalité, ces deux cailloux-là, on ne va jamais les trouver vraiment au même endroit. Et nos ancêtres, lorsqu'ils utilisaient cette technique-là, ils importaient parfois sur des milliers de kilomètres des silex ou alors de la marcassite. Après, pour le feu par friction...
Ça veut dire que vous emportez les bonnes branches, les bons bouts de bois dans votre sac à dos.
En fait, c'est un défi qui est assez intéressant, justement, d'aller se lancer dans une forêt qu'on ne connaît pas et d'essayer de faire un feu par friction de A à Z. Donc de tailler la planchette, de tailler le petit forêt, de tailler son archer, etc. Alors, je me lance ce défi de temps en temps.
Oui, sympathique, les petits exercices du dimanche.
Quand on y arrive, je peux vous garantir que c'est ultra gratifiant et qu'on est super fiers de voir jaillir des flammes à partir de rien.
Regarder, entendre, observer, voilà les maîtres mots. Vous nous appelez au 33 84 22 71 71. Nous accueillons une spécialiste des plantes sauvages pour parler de la façon de se nourrir quand on est dans ces stages de survie, même si le mot est parfaitement inexact, on est bien d'accord, il s'agit de loisirs, il s'agit de stages pour apprendre, mais néanmoins avec quelques frissons et quelques résistances physiques. Bonjour Laurence Talleux.
Bonjour Alban.
Salut Laurence.
Vous êtes formatrice plantes sauvages, comestibles et monitrice de vie en pleine nature.
C'est ça.
Qu'est-ce que
formatrice
vous...
particulièrement auprès des professionnels. Et puis on organise des stages au ski un petit peu comme Alban pour faire découvrir la vie en pleine nature.
Formatrice auprès
de façon ludique.
Alors auprès de professionnels, c'est-à-dire des cuisiniers?
Cuisinier, animateur de centre de loisirs, jardinier, pépiniériste, horticulteur, passionné de la nature.
Les forêts européennes,
monsieur, madame, tout le monde.
Alors les forêts européennes ne sont pas si accueillantes que cela, hein. Bien sûr, il n'y a pas autant d'animaux sauvages que sur d'autres continents, mais il y a néanmoins des plantes et des choses qui sont dangereuses pour l'organisme. Je parle notamment des champignons vénéneux. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre sur ce qu'on peut trouver dans cette vie sauvage?
Alors déjà les champignons, moi je les enseigne pas. Sur 4500 espèces de champignons en Europe, vous en avez 50 comestibles. Sur les plantes, c'est le ratio inverse. Vous avez 4500 espèces, grosso modo, hein, de plantes à fleurs, et dedans, il y en a 50 qui sont vraiment toxiques.
Donc, beaucoup moins de risques de se tromper, hein, c'est ça, finalement. Hein. C'est beaucoup moins dangereux d'essayer de se nourrir avec des plantes qu'avec des champignons si on n'a pas une connaissance parfaite.
C'est moins dangereux, mais néanmoins, il faut quand même avoir la connaissance. Et nos anciens avaient la connaissance. Le souci, ça, je rebondis un petit peu sur ce qu'il disait Alban tout à l'heure, c'est que nos anciens n'ont pas retransmis à un moment donné. Alban a eu la chance d'être enseigné par sa grand-mère, mais il y a eu toute une génération qui a été coupée de la nature et des enseignements de nos anciens. Et tout ce qu'on fait, nous, c'est juste reprendre le savoir des anciens et le retransmettre aux générations futures. Et en ça, la vie en pleine nature, savoir faire du feu, savoir se servir d'un couteau pour faire une petite sculpture ou une cuillère ou peu importe, savoir manger des plantes sauvages, savoir trouver son eau, c'est juste un savoir ancestral.
Un repas 100% forêt, ça peut être quoi par exemple, Laurence Talleux? Parce qu'on a envie d'avoir une idée concrète de ce qu'on peut manger tout de même.
Ça peut être quoi? Alors 100% forêt, déjà moi je ne suis pas végétarienne, donc il faudrait que je puisse chasser ou pêcher. Pour avoir l'apport en protéines. On peut avoir l'apport en protéines avec plein de plantes. Hein. Mais quand on vit en forêt, on a une dépense énergétique qui est plus importante. Et du coup, il faut forcément avoir un apport extérieur, on va dire animal. Après, on peut manger
du
pissenlit que les gens connaissent déjà.
Alors attendez, question animale, vous pensez à quoi par exemple?
Un poisson.
D'accord. S'il n'y a pas de plan d'eau?
Ah bah après, il faut avoir un permis de chasse, faut être en période de chasse, on est en France.
On est d'accord.
Ouais, puis après, c'est plutôt des techniques qui passeront par le piégeage aussi pour s'économiser l'énergie. Parce que en fait, la dépense énergétique, il faut pouvoir la couvrir. Ça ne sert à rien de courir après un lièvre, parce que de toute façon, la viande de lapin, quelque part, n'est pas si riche que ça. Alors que si vous posez un piège et que pendant ce temps, vous vous occupez d'aller cueillir des plantes qui, elles, ne bougent pas, vous revenez sur votre piège, ça ne vous a pas coûté beaucoup d'énergie en termes caloriques. Et pourtant, s'il est rempli, ce piège-là, et ben, vous allez pouvoir vous nourrir après. Donc il y a aussi cette notion d'énergie, comme disait Laurence. Ouais.
Et alors sur les plantes, Laurence Talleux?
Alors, sur les plantes, il y a énormément de plantes à manger. Le problème, c'est que je ne peux pas vous donner des listes, parce que déjà, ce serait interminable.
Et ouais, faut pas lancer.
Bon, un exemple de repas.
Il faut que les gens puissent reconnaître. Il faut aller sur le terrain avec des gens comme Alban, avec des gens de notre association ou autre. Il faut vraiment apprendre. On ne peut pas s'improviser.
Bon, on n'aura pas d'exemple de plantes du tout pour le déjeuner,
si.
Là.
Allez, t'as plein de recettes, Laurence.
Non, parce qu'il nous reste
une.
Deux minutes, Laurence, à tout à l'heure.
L'ortie, le pissenlit, la marguerite, le plantain.
Cuit ou cru?
Les châtaignes. Alors, quelque chose de facile. Les châtaignes, les noisettes, les mûres. Déjà, si vous prenez ces cinq plantes que je vous ai citées, c'est énorme. Les gens ne sortent plus... aller au mur. Enfin, moi, je me souviens, petite, on allait au mur.
Bon, alors là, quand même, ça, c'est pas trop compliqué. Il faut que ça soit la saison. Les orties, on les trouve en toute saison ou presque. Qu'est-ce qu'on fait avec des orties?
Alors, basiquement, vous pouvez faire la soupe d'orties. Vous pouvez faire des chips d'orties. C'est-à-dire que vous les mettez dans l'huile de tournesol bouillante. Vous les lâchez. Ça va être chit. Dès que ça fait plus de chit, vous les enlevez. vous mettez un peu de sel et ça fait des chips.
Eh ben merci, c'est un très bon déjeuner pour une entrée en matière. Merci Laurence Talleux, vous êtes formatrice plantes sauvages comestibles et puis vous êtes aussi monitrice de vie en pleine nature. Je voudrais qu'on laisse la parole à un voisin qui nous a posté un message sur WhatsApp, on l'écoute.
Je suis Grace, j'ai 20 ans depuis Goma. Pour moi, le survivalisme n'est pas vraiment un choix totalement, parce que de mon expérience, il constitue le quotidien de millions de gens. Vouloir toujours survivre. Et cela dans des conditions vraiment déplorables et où on n'a pas de choix, à part uniquement survivre. À mon avis, vouloir se mettre dans les mêmes conditions, je pense que c'est un peu vouloir se moquer de ceux qui survivent. Merci.
Voilà, c'est un voisin à l'est de la RDC, à Goma. Évidemment, beaucoup de nos auditeurs, pas la majorité, mais une partie en tout cas, ont été poussés pour des raisons de conflit à survivre quelques semaines, quelques mois. Dans la forêt, si on prend les millions de gens déplacés tout autour de la planète à cause des conflits, bien sûr qu'on peut se retrouver dans ces conditions-là. Vous en êtes conscient aussi, Alban Camp, dans le fait d'aborder ces questions-là en termes de loisirs ?
Oui, bien sûr. C'est pour ça que moi, je revendique le côté loisir bushcraft. Mais je dis toujours aux gens, si vous voulez voir de la vraie survie, il suffit d'aller dans les rues de Paris, d'aller voir des sans-abri, d'aller voir des déplacés, des réfugiés, comme vous dites. Et malheureusement, c'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on se voile un petit peu la face, on se prétend être dans le survivalisme ou la survie, alors qu'en réalité, on ne connaît pas le tiers des difficultés de ces gens-là.
Ceci dit, ce qui vous préserve du décalage total avec les réalités, c'est que vous êtes dans l'apprentissage de la connaissance de la nature. On va bien le redire.
Ouais, c'est ça.
Donc on peut avoir plus d'informations, bien sûr, en lisant vos magazines Survival Mag, où il y a beaucoup de techniques. Ce sont des magazines extrêmement techniques. Nature, aventure, survie, aussi le guide pratique du bushcraft. Et bien sûr, on peut en savoir plus en allant sur votre blog.
Oui, natureaventuresurvie.blogspot.fr.
Voilà, nature, aventure, survie, c'est tout simple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à
Alban
vous.
Camp, vous restez jusqu'à la fin de l'émission.
Avec plaisir.
Dans quelques instants, ça sera juste après la chanson Survivor, nous suivrons des combats de coqs. Chez 7 milliards de voisins, du lundi au vendredi, toute la vie quotidienne. Après la survie des hommes, on parle de la survie des coqs. Aux Antilles, les combats de coqs sont une tradition tenace, importée par les Espagnols au XVe siècle avec Christophe Colomb. Ce divertissement est devenu aujourd'hui un jeu d'argent, de paris. Et de octobre à juillet, chaque semaine, des combats ont lieu dans les gallodromes, qui sont aussi appelés sur place en Guadeloupe des pits de combat, c'est-à-dire des arènes construites chez les éleveurs. Alice Milo nous propose un reportage, un jour de combat en Guadeloupe du côté de Petit Canal. Âme sensible, s'abstenir.
Voisin, il a ça. On va assister à la pesée.
Donc là, la grande queue, là, c'est pour que les éleveurs fassent peser leurs animaux, c'est
tout
ça?
Tout à fait, on va peser les coqs avant le combat, ça va? Et les coqs vont se battre aussi, il y aura deux critères. Même poids et même valeur, à 40 grammes de différence seulement.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors vous avez votre coq dans les bras là ?
Eh bien oui, je suis venu m'amuser avec lui.
Alors comment il s'appelle ?
Flèche.
Flèche ?
Ouais. Je l'entraîne deux fois par semaine. Enfin, il faut dire que c'est comme un footballeur, un boxeur et tout, hein. C'est l'entraînement qui compte. On les considère comme nos enfants pratiquement.
C'est-à-dire, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Il ne faut pas les maltraiter, il faut les entraîner, les soigner correctement. Et puis, bon, ça va, quoi.
Mais alors, vous allez parier sur votre propre coq?
Ah ben oui, il faut, ouais.
Vous allez parier combien?
Là, la pesée, ce sera pour 300 euros.
300 euros?
Oui.
De Lorès, il y a combien d'éleveurs qui sont venus avec leurs animaux aujourd'hui?
Une quarantaine, hein, pour le moment, là, déjà. Les gens viennent de toute la Guadeloupe, hein, quand il y a les combats de coqs.
Comme il y a déjà beaucoup de monde, on va essayer de trouver une place dans les gradins, hein, maintenant?
Oui, tout à fait, parce qu'on risque de ne pas avoir une bonne place. Ce n'est pas nous, hein, qui forçons les coqs à se battre. En liberté, les coqs se battent jusqu'à mort, parce qu'ils veulent toujours être le dominant. Si deux coqs s'échappent maintenant, là, ils vont se battre jusqu'à ce qu'il y en a un qui meurt. En liberté, ils se battent jusqu'à mort. C'est la bouillie pour les chats, hein. Dans l'arène, ce n'est pas jusqu'à mort sans suivre. C'est nous dans l'arène qui arrêtons un peu avant. Le combat dure 10 minutes. Il peut y avoir un match nul, il peut y avoir qu'un coq meurt, mais ce n'est pas souvent. Les coqs de combat, ce sont des sportifs de haut niveau qu'on prépare pour des compétitions qui vont aller jusqu'à 6-7 ans. Le premier combat, c'est Pete Cotmaïgana.
Donc là, il est en train d'annoncer tous les combats qui vont avoir lieu.
Oui, et en même temps, il va ramasser l'argent du premier pari.
Donc là, par exemple, le monsieur, il a donné 100 euros.
Mais c'est le prix de son combat?
En tout cas, là, on voit que c'est quand même une affaire d'hommes. Hein. Là, il y a une quinzaine d'hommes au milieu de l'arène en train de s'échanger des sous, de préparer les coqs. Ça y est, ça commence.
Oui.
Chaque éleveur se positionne de chaque côté derrière sa porte avec son coq. Et il le lâche.
Oui, et les coqs se battent n'importe où dans l'arène. Et ils sautent. Ils se lancent sur l'autre. Quand on regarde comment ils lancent leurs pattes, ils lancent beaucoup leurs pattes en avant pour se défendre. Et ils tirent avec le bec.
On voit qu'ils essayent vraiment de s'attraper par tout ce qu'ils peuvent, hein, les plumes,
oui.
La tête, ils se piquent.
Chacun couvaille son coq, ou bien le coq qu'il a misé dessus. Ah, le coq est tombé, donc le juge a mis le fumeteur en marche. Ah.
Ça y est, c'est fini?
C'est fini, parce que, mais il est resté couché. Un combat comme ça, les gens sont mis en haleine depuis le départ. Parce que les deux coqs sont forts.
Je vous ai vu beaucoup crier pendant le combat, là.
Oui, c'est pas question de gagner, je vous dis. Le coq, c'est un guerrier. Quand il se combat très bien, qu'il perd ou qu'il gagne, je suis content. J'ai fait le premier combat de coq, j'avais 14 ans. Après, je suis parti, j'avais 19 ans, je suis parti en métropole. J'ai vécu 37 ans en métropole. Et quand je suis retourné, ça fait 11 ans, je suis retourné dans les arènes de combat de coq. C'est que j'adore ça. J'ai une super écurie de... J'ai une trentaine de coqs de combat.
Vous avez une trentaine de coqs?
De combats, oui.
Chez vous?
Oui. Ça a été dans nos ancêtres. On était esclaves, on faisait des combats de coqs pour ne pas s'ennuyer. Et ils n'avaient pas de loisirs. Loisirs, ils avaient, c'était leur femme faire des enfants. Il n'y avait pas de préservatif. Mon père a eu 14 enfants avec ma mère. Mon père, il est mort à 39 ans. Mais quand ils faisaient des combats de coqs, hein, ce n'était pas pour de l'argent parce qu'ils n'avaient pas d'argent. C'était pour s'amuser, pour ne pas s'ennuyer. Et même moi, je le fais. Je ne peux pas rester le week-end chez moi. C'est impossible. Dès que j'arrive ici, c'est pas la même chose. Je rencontre mes amis, je bois, je discute. Tous mes stress, hein, j'ai vacuumé ça. J'ai pas besoin de psy ni de médecin. Non, je vous assure, c'est vrai. Je me suis réveillé à 5h30 pour nourrir mes coqs avant de venir ici ce matin. Pour donner à manger, à boire, tout avant de partir. Je ne partirai jamais chez moi avant de nourrir tous mes coqs. Mais je prends plus soin de mes coqs que de ma femme. Quand je dis ça, elle se met en colère, mais c'est la vérité. Parce que j'ai dit, mais mes coqs me donnent de l'argent, elles ne me donnent rien. Par contre, j'aime pas la mort des bêtes. Moi, si je vois mon coq qui perd, je l'enlève. Je l'enlève.
Avant qu'il meure.
Ah non, avant qu'il meure, je l'enlève. J'accepte de perdre le combat, j'enlève mon coq. Quand on perd un bon combattant, ça fait très très mal.
RFI, la radio du monde, 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Voilà, les combats de coqs sont une pratique légale, hein, il faut bien le préciser, mais qui tend à disparaître puisque l'État français ne permet pas la construction de nouveaux galodromes pour les combats de coqs. Il ne reste donc actuellement plus que 9 pits légaux en Guadeloupe. Et en 2011, une députée française a bien essayé de faire interdire cette tradition qu'elle juge maltraitante envers les animaux, mais elle n'a jamais obtenu le nombre de voix nécessaires pour faire interdire les combats de coqs. Affaire à suivre donc.
Sept milliards de voisins et la planète se barre.
7 milliards de voisins. Un rendez-vous à noter maintenant, le Forum des diasporas africaines qui se tiendra le 22 juin prochain à Paris. Et puis un site internet pour en savoir plus, le forumdesdiasporasafricaines.com. Nous sommes en ligne avec Khaled Higué, ambassadeur du Forum des diasporas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi président du think tank Club 2030 Afrique. Dites-nous quels vont être les enjeux de ce Forum des diasporas africaines. Ce n'est pas la première réunion sur le sujet tout de même.
Ce Forum des diasporas africaines sera inédit. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois ingrédients qui sont réunis. Le premier ingrédient, c'est qu'il commence à avoir une pensée diasporique. La deuxième chose, c'est qu'il y a des succès en termes d'entreprise, des personnes de la diaspora. Et enfin, c'est qu'aujourd'hui, la diaspora représente une vraie force économique.
Vraie force économique, il faut le préciser. L'argent transféré aujourd'hui par les diasporas, les sommes sont plus importantes au total que la moyenne de l'aide au développement.
Exactement. Aujourd'hui, les diasporas envoient 65 milliards de dollars par an. Ce qui représente une vraie force économique.
Mais alors, ça veut dire que vous comptez faire des propositions politiques ?
Au-delà des propositions politiques, il y aura de vraies propositions économiques. L'enjeu, c'est de faire rêver les prochaines générations de diaspora africaines. De montrer qu'il y a des entreprises qui marchent, que les diasporas créent, et que les diasporas peuvent créer de la valeur et des emplois.
Mais de faire rêver les diasporas ou de finalement de mettre davantage la pression sur les diasporas parce que de tout temps, elles ressentent une pression forte de la part des communautés d'origine, des pays d'origine, de jouer un rôle croissant dans l'aide au développement.
Non, il ne s'agit pas de mettre de la pression. Les choses ont complètement changé. Avant, la diaspora construisait des écoles par-ci et par-là dans les villages. 7 ans ont changé. Maintenant, on est dans une ère.
Khaled Higué ? Oui. Ah, on a un problème de ligne téléphonique, semble-t-il. Nous vous avons joint sur un téléphone portable. Ce que je peux dire, en tout cas, avant qu'on vous retrouve, il nous reste très peu de temps, mais bien sûr, le site internet à ne pas oublier, forumdesdiasporasafricaines.com. Il faut s'inscrire sur le site pour participer à ce Forum des diasporas. Près de 1000 personnes sont attendues. Il y aura des conférences, des séances de travail, des workshops, avec bien sûr des conférences données par des modèles, des chefs d'entreprise qui ont particulièrement bien réussi, et puis surtout l'occasion d'échanger et de dialoguer pour mettre en place des projets sur le continent africain. Khaled Higué, merci d'avoir été en ligne avec nous. On est désolé que la ligne téléphonique est coupée. Vous êtes ambassadeur du Forum des diasporas et président aussi du think tank Club 2030 Afrique. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Cécile Lavolo, Delphine de Dianouz, Baptiste Madinier, Didier Cherouz. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez réécouter toutes nos émissions, comme toujours, sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique des magazines et nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera éducation, comme chaque vendredi. Comment transformer ses compétences en diplôme ? Nous parlerons de la validation des acquis de l'expérience, la VAE, quand on a, par exemple, plusieurs années d'expérience professionnelle et qu'on n'a pas eu la chance d'aller à l'université, on peut aujourd'hui transformer cette expérience professionnel en diplôme. Et c'est le rêve de certains. Ça se fait dans de nombreux pays, y compris d'ailleurs sur le continent africain. On en parlera notamment, une expérience intéressante au Burkina Faso. Vous pourrez bien sûr nous questionner au 33 1 84 22 71 71. À demain les voisins.